Vous aimez la littérature?
Oui, essayez de faire de la littérature. Tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution.
Essayez de cambrioler un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Ah oui, alors Afrique du Sud, champion du monde de rugby, mais ça n'est pas l'objet de Essai transformé, qui parle plutôt de textes à caractère philosophique, sociologique, historique, etc. etc., etc. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un texte qui est un peu daté, mais qui est d'une actualité brûlante, qui s'appelle « Les chiens de garde » de Paul Nizan. Paul Nizan a écrit ce texte, il avait 27 ans, c'était en 1932, et ce qui m'a semblé intéressant, c'est la manière dont il décrypte la déliquescence de la pensée philosophique à cette époque, mais qui semble d'une actualité fascinante. C'est-à-dire qu'en fait, à 80 ou 90 ans après, eh bien, on se rend compte que ce qu'évoquait Paul Nizan correspond un peu à une réalité. Le texte que j'ai sous les yeux a été préfacé par Serge Halimi et qui explique que l'actualité des chiens de garde, il aurait préféré ne pas en éprouver la robuste fraîcheur, dit-il. Nous aurions aimé qu'un même côté de la barricade, c'est ça, de réunir penseurs de métiers et bâtisseurs de ruines. Nous aurons voulu que la dissidence fût devenue à ce point contagieuse que l'invocation de Nizan au sursaut et à la résistance en parut presque inutile. Alors je vais vous lire, ce texte est composé de six parties, hein, destination des idées, les philosophes contre l'histoire, la démission des philosophes, la situation des philosophes, position temporelle de la philosophie et défense de l'homme. Je rappelle que Paul Nizan a fait Normal Sup avec Jean-Paul Sartre, même si je pense qu'il pouvait avoir des divergences de vues. Je vais vous lire un petit extrait du dernier chapitre qui s'appelle « Défense de l'homme ». Il dit « Il y a présentement ce qu'on appelle une crise dans le monde ». C'est comme un de ces grands événements épidémiques qui survenaient au Moyen-Âge et qui traversaient les pays, et tous les hommes connaissaient la peur. Cette crise est arrivée au moment même où le monde se sentait de nouveau prospère et confiant, sans avoir été présagé par ces comètes en forme de flammes ou d'épées que savaient voir les astrologues. Il n'y avait pas eu de signes ni d'annonciation au milieu de la nature. Cet événement ne concerne que les hommes, leurs machines, leurs marchandises, leurs monnaies, leurs états et leurs idées. Nous sommes arrivés au temps où les hommes sont définitivement la terre et les signes naturels ne se forment plus pour les avertir comme au temps de la mort de César. Toutes les fourmis de l'esprit commencent à se mettre en mouvement, réveillées par des coups sévères qui bouleversent les couloirs propres et polis où elles étaient accoutumées à monter et à descendre avec leur petit fardeau de pensée. Les penseurs, les politiques, les professeurs d'économie, les diplomates, les banquiers et ceux que les flatteurs nomment capitaines d'industrie s'assemblent et ils découvrent que tout ne va pas bien dans le monde comme le voudrait l'ordre des nations et comme l'exige le profit. À la place longtemps assurée de l'ordre, à la place de ce repos où respirent également les sociétés et les personnes, ils s'aperçoivent de l'entrée du désordre, de l'arrivée de catastrophes. Cette anarchie visible, une inquiétude, est une inquiétude pour leur avenir et un scandale au regard de leur raison. Dans cette atmosphère de maladie, des hommes réfléchis, de ces hommes qui commandent, essayant de retrouver leur ancienne santé et leur ancien confort et cette ancienne assurance du lendemain qu'ils nommaient civilisation de l'Occident. Ils font des livres et des rapports, ils prononcent des sermons, ils convoquent des conférences et des parlements et ils expliquent presque tout ce qui se passe par diverses folies guérissables et par diverses opinions fausses et redressables des hommes. Ils pensent qu'à l'orgueil doit succéder la modestie, à la dépense, l'économie. Le désordre a renversé la sérénité et la sûreté des pouvoirs spirituels. Les pouvoirs recherchent ce bien-être perdu. Toute cette inquiétude prend divers visages accordés aux nations. Elle a un visage qui veut encore se composer dans ce pays longtemps privilégié. Nous sommes entre l'Atlantique, la Méditerranée et le Rhin. Les interrogations qui y sont énoncées ne traduisent pas encore ce qui est nommé le désespoir. Comment désespérer d'un pays qui possède tant d'or, de propriétaires de sagesse cartésienne, de vertus casanières, de livrets de caisses d'épargne, de canons et de soldats? Il termine en disant « Ne pas mourir avant le mouvement du progrès, ne fait pas faire faillite, ne pas perdre confiance dans ses anciennes idées qui faisaient bon usage, qui étaient taillées dans des étoffes, comme on n'en fait plus. »